Bienvenue à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. Il va tourner midi 2. Exactement. Une émission présentée par la souche microbrasserie. J'aime donc bien ça, moi. J'étais un fan de microbrasserie, j'étais un fan de bière de micro.
On mange bien à la souche aussi.
Ah oui, aussi.
Ça fait partie des micros que c'est vraiment plaisant à les manger.
Oui, puis les deux sont le fun. Autant celle de Limoilou, tu te retrouves en pleine ville, dans un quartier que j'adore. T'es un peu tout pogné les uns ces autres. Moi, je vais toujours du côté bar en plus. Donc, c'est un endroit super plaisant. Je vais se faire avec mon ami Mathieu, mon ami Jean-Michel.
Tu vas plus à Stoneham ou à Limoilou?
Je vais plus à Limoilou, je te dirais. Mais Stoneham, je suis pas mal égal. Stoneham, je suis pas mal 50-50.
Stoneham,
ouais, exactement.
Après le ski, là, wow.
Oui, oui, oui. L'été aussi, je joue au golf à côté. Donc, après le golf, une petite bière. La poutine là-bas, la souche. Quelle est bonne. Ah, on est content que ça soit présenté par la microbrasserie La Souche. L'émission On en jase, 418-971-1021, évidemment, pour nous joindre. Écoutez-nous aussi via la web radio blvd.fm et vous retrouvez les meilleurs moments de l'émission On en jase et de toutes les émissions qui sont dans la superbe programmation de Boulevard 102.1. Notre application BLVD 101 sur App Store et Google Play Store et twitch.tv/BLVD/FM. Là, Pascal, tu me disais, tantôt, tu me disais un nombre là, qu'on était sur Twitch normalement. Là. On fait-tu monter ça aujourd'hui? Là?
Ben, on peut.
Mais
on
nous
peut.
Voir.
Absolument. Twitch.
twitch.tv/BLVD/FM. Bien sûr.
Antonine est là pour le début d'émission. Alors, manquez pas ça. Trois studios, ça se vaut le détour.
Ben, ça oui, vaut le détour Twitch. On va avoir Alicia Despins, l'ex-conseillère municipale pour Québec d'abord, qui va être avec nous pour sa première chronique politique municipale avec nous. Ça sera une nouvelle chroniqueuse ici à Boulevard à On en jase. On va la faire commenter après les conseils municipaux. Elle a fait des conseils municipaux pendant 8 ans. Elle va être capable, des fois, tu sais, des avis de proposition, des affaires de même que moi, puis toi, on comprend pas trop, là.
Ah, ben, honnêtement, moi, j'ai couvert ça pendant un bout, puis je trouve que c'est souvent un endroit où on rit. Puis je veux pas le dire de façon péjorative. Non, c'est juste que ça peut s'obstiner pour des niaiseries pendant longtemps. T'as des petites perles là-dedans et surtout, tu vois l'attitude de nos politiciens municipaux. Et ça, c'est beaucoup d'informations.
En plein ça. On va avoir Ruba Gazal également, co-porte-parole pour Québec solidaire. On va parler avec elle, entre autres, des migrations. Puis là, il y a une grosse nouvelle aujourd'hui. On va en parler avec Antonine dans le caucus, Jean-François Roberge, qui a justement là, annoncé les seuils d'immigration pour les prochaines années jusqu'en 2029. Mais je veux parler avec Ruba Gazal de son livre « Les gens du pays viennent aussi d'ailleurs. » Je veux qu'elle nous raconte son histoire personnelle. Une Palestinienne qui est arrivée à Montréal, qui ne parlait pas français, qui a immigré, qui s'est intégrée dans la société québécoise, puis tellement intégrée que s'il y avait un référendum demain matin, elle voterait oui.
Non seulement elle voterait oui, mais elle fait partie des figures de proue. Tu sais, chez Québec solidaire, des fois, le PQ reproche qu'on ne parle pas beaucoup d'indépendance. Mm-hmm. On ne peut pas faire ce reproche-là à Ruba Gazal.
Du tout. Donc, je veux connaître son parcours personnel. Donc, oui, on va jaser un peu de politique, évidemment. On va jaser des seuils en immigration, puis on va parler d'autres choses. On est là-dedans. Mais je veux surtout qu'on connaisse l'histoire personnelle de Ruba Gazal. Tu sais, Pascal, on aime ça, là, moi et toi, mettre l'humain à l'avant-plan. On l'a fait avec Jenny Boutet, infirmière, cette semaine. Oui. Je veux qu'on fasse ça avec Ruba Gazal, même si c'est une politicienne.
Puis en politique, je trouve ça important pour la suite des choses aussi, parce que souvent, on est rendu un petit peu dégoûté par la politique. Quand je vous lis, en tout cas, les auditeurs puis les gens, les votes, ceux qui votent, les électeurs, il manque l'humanité derrière la personne parce que souvent, vous commencez à tirer sur le métier, sur la profession, sur ce que la politique représente. C'est intéressant de savoir qui est derrière.
Exactement. On va parler de l'humain. Mais avant de parler de l'humain, Pascal, tu m'as fait un petit signe?
Oui, juste dire que il y a la politique en immigration de M. Roberge là, dans les dernières minutes qui est sortie, en fait, une annonce.
Et oui, vas-y, fais-nous la nouvelle. On va justement en parler dans le caucus.
Pour Jean-François Roberge, on a pour une baisse modérée et visible 45 000 par année en termes de gens qui vont venir immigrer de façon permanente ici.
On passe au caucus.
Le caucus. Le caucus.
102-1.
Voici Antonine Iaccarini.
Le caucus Iaccarini du lundi au jeudi à Boulevard à l'émission d'Angers de midi à 12h30. Antonine, tant qu'à avoir eu la nouvelle de Pascal concernant l'immigration, je commencerai avec ceci. Donc, je te poserai cette question-là. Je pense que la CAQ vient de choisir le moins pire des scénarios.
Ouais, écoute, le problème avec les plans d'immigration, c'est que c'est tellement compliqué, puis là, il y a plein d'acronymes, puis il y a plein de subtilités, que c'est un peu difficile de vous encapsuler ça en quelques secondes.
Ouais.
Mais je dirais qu'on prend en considération le contexte actuel. C'est-à-dire que la CAQ avait baissé les seuils en 2019 dans sa planification de l'immigration, de manière assez drastique d'ailleurs. Ça avait créé d'ailleurs quelques enjeux. Après ça, on les a remontés. Au-dessus de 50 000, ça avait fait l'objet de critiques, notamment de la part du PQ. Dans ce temps-là, le milieu des affaires est plus content, etc. Là, on rebaisse les seuils d'immigration. Ça fait plusieurs années que le gouvernement du Québec demande au fédéral d'agir sur certains fronts. Parce qu'on le sait, l'immigration, c'est une responsabilité partagée entre le fédéral et le Québec. Québec contrôle un certain nombre de choses, mais, par exemple, les frontières demandeurs d'asile, il y a plusieurs programmes aussi qui sont gérés directement par le fédéral. Donc, il faut s'entendre avec Ottawa. On ne s'entend pas souvent sur les questions d'immigration.
Non, exactement, c'est clair. Surtout pas de l'époque Justin Trudeau. Là.
Non, exactement. On voit qu'il y a eu un petit changement de ton à Ottawa quand même, mais cela dit, on demeure assez loin. Québec fait des demandes régulièrement, notamment de baisser le nombre de demandeurs d'asile et aussi de mieux les répartir à travers le pays. C'est pas facile. Il faut crier très, très fort pour voir des petits changements. Finalement, Ottawa s'est davantage attaqué aux travailleurs étrangers temporaires. On a beaucoup coupé dans ces aspects-là, ce qui n'est pas nécessairement la priorité de Québec. Québec veut baisser l'immigration temporaire, qui se compose d'étudiants internationaux, de demandeurs d'asile et de travailleurs étrangers temporaires. Mais c'est sûr que je pense que si, on le dira jamais comme ça, mais si Québec avait le choix, préférait avoir des travailleurs étrangers plutôt que des demandeurs d'asile. Ouais. Et je le dis là, de manière, c'est pas contre les demandeurs d'asile ou quoi que ce soit, mais c'est sûr qu'il y a un aspect moins contrôlé, entre guillemets, moins de sélection quand on parle de demande d'asile.
Un aspect économique aussi au niveau des immigrants temporaires qui vont venir travailler justement surtout en région.
Donc, à partir du moment où Ottawa ne répond pas très rapidement à cette demande-là, ben moi, je vois ce plan d'immigration comme une réaction à ça. C'est-à-dire, bon, ben écoutez, si on n'est pas capable de baisser plus que ça l'immigration temporaire, nous, on va baisser nos seuils de notre côté parce que notre capacité d'accueil, selon le gouvernement de la CAQ, est atteinte. On a des défis, pression sur les services publics, crise du logement, etc. Donc, on va baisser nos seuils d'immigration en conséquence. Et là, la principale nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on met fin au programme Expérience québécoise, qu'on appelle communément le PEC, qui avait été réformé à plusieurs reprises dans les dernières années. et là, on va plutôt miser sur le programme des travailleurs qualifiés. On veut vraiment être en mesure de mieux sélectionner notre immigration économique. Puis c'est vraiment ce que je retiens de l'annonce de Jean-François Roberge aujourd'hui.
Mieux sélectionner par rapport aussi aux compétences de ces gens-là. On passe en immigration permanente de 61 000 personnes immigrantes, nouveaux arrivants qu'on a accueillis en 2025, à un seuil de 45 000, et ça jusqu'en 2029. Tu le vois comment ça? Parce qu'on parlait de 25 000, 35 000 ou 45 000, on a comme choisi le plus haut. Je pense qu'on essaye de satisfaire un peu tout le monde là, dans ce moment de crise avec les médecins et de crise au sein de la CAQ.
Oui, puis il y a des besoins démographiques également. Là. C'est sûr qu'on pourrait toujours faire une surenchère, mais à l'envers.
Ouais,
toujours
oui.
Des plus petits seuils d'immigration, ça serait sans doute populaire, mais à un moment donné, oui, il y a le monde des affaires aussi qu'on veut satisfaire parce que c'est toujours un secteur qui pousse pour davantage d'immigration, mais aussi c'est qu'on a des besoins démographiques. Donc de l'immigration qui parle français, qui obtient des diplômes d'ici, qui est en mesure de se trouver de l'emploi dans des secteurs dans lesquels il y a des besoins. Le gouvernement n'a pas à arrêter cette source d'immigration-là nécessairement. On fait des efforts supplémentaires dans les dernières années pour resserrer les critères en français notamment. Demeure que c'est un enjeu qui est hautement politique. Et que la CAQ a toujours le PQ à côté qui propose d'aller plus loin, de couper davantage. Donc, finalement, la CAQ se retrouve toujours un peu à satisfaire personne, là, comme on le disait tantôt. Pour ce qui est du regroupement familial, il faut savoir aussi, quand on coupe dans les seuils, il y a des gens qui sont déjà un peu dans le système et qui sont en attente. Hein. Et les délais sont extrêmement longs. Le regroupement familial, c'est des très, très grands délais. Et la dernière fois que la CAQ avait baissé les seuils d'immigration, ça avait créé un grand, grand inventaire. Parce que quand on dit « Ah, l'an dernier, on en a reçu 60 000. » En fait, souvent, c'est des gens qui sont déjà là. On ne les a pas reçus. Ils sont admis comme résidents permanents parce que l'immigration, c'est un processus qui est un peu long. Puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a dépassé les seuils dans les dernières années. Donc, on fixait des seuils, mais on ne les respectait pas. Ça, c'est l'autre message du gouvernement du Québec maintenant, c'est « ils seront respecté.
Mais déjà, ça commence à faire jaser. Puis après quelques minutes de l'annonce, on reçoit des communiqués dans notre boîte courriel, des communiqués de tout genre, dont un, immigration, des cibles qui fragilisent le secteur manufacturier. Voilà. Ça commence.
Ça commence et c'est normal. Puis, tu sais, je vais dire les choses un peu froidement, mais si vous êtes du secteur économique, plus il y a de travailleurs disponibles, moins ça coûte cher de payer les gens. Donc,
exactement.
C'est sûr qu'on pousse pour nos intérêts ici. Il faut dire aussi que les maires des municipalités dans les régions, en fait, dans les régions, il y a une demande pour davantage d'immigration.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a quand même 80% de l'immigration qui se rend où? À Montréal, on serait capable. Tu sais, notre capacité d'intégration est quand même un peu plus élevée en région. Mais l'affaire, c'est que ce n'est pas des pions, les immigrants. Tu ne peux pas dire, toi, tu vas aller sur la Côte-Nord, toi, tu vas aller. Ce n'est pas comme
non,
ça que ça,
ça
fonctionne.
Ça se regroupe beaucoup dans les métropoles et avec raison, parce qu'on veut justement retrouver notre famille et retrouver notre communauté qui est déjà installée. Je te fais entendre Jean-François Roberge, ce qu'il a déclaré justement avant de présenter ses cibles.
En très, très grand nombre de toutes ces personnes sur le territoire, bien évidemment, ce n'est pas responsable de tous les enjeux qu'il y a au Québec. Mais ça augmente de manière déraisonnable la pression sur les écoles, sur les hôpitaux, sur les services publics, sur l'accès au logement, je veux même dire sur l'accès à la propriété. C'est une pression aussi sur le français qui était déjà vulnérable, on le sait tous. Des exemples concrets, par exemple, la présence d'autant de personnes qui sont des immigrants temporaires, résidents, non permanents sur le territoire québécois, bien, ça requiert, en termes de santé, au net, plus de 10 000 ressources humaines dans le réseau de la santé. Il faut les trouver, ces personnes-là. Il y a l'enjeu des finances publiques, mais il faut les trouver aussi. En éducation, il y a 62 000 élèves, 62 000 enfants qui sont résidents non permanents. Ça représente un besoin de 4 500 enseignants à temps plein. Est-ce qu'on les a, ces enseignants-là? Il faut se poser la question.
Bon, je veux pas tomber dans l'extrémisme, mais... Bon, on dit que ça me chatouille quand j'entends un discours de même. Parce que je me dis, notre système de santé est mal foutu puis en raison de mauvaises décisions à répétition des différents gouvernements. CAQ, Parti libéral, Parti québécois inclus... Même chose pour le système d'éducation. Et là, j'ai toujours l'impression qu'on essaye de s'en laver les mains en disant « Ouais, mais il y a trop d'immigration, vous savez. » Puis là, ben faut baisser les seuils. Mais en même temps, il y a de la mauvaise organisation en crime. J'haïs ce discours-là.
T'as raison. En fait, on n'a pas besoin des immigrants pour avoir des services publics de chnout.
Ben, c'est ça.
On va se le dire. Là. Mais cela dit, les deux peuvent être vrais en même temps. C'est-à-dire que effectivement, tu regardes des données démographiques. On a une forte augmentation, notamment dans le système d'éducation. Hein. Même le Centre de services scolaires de Montréal, il y a 2 ans, avait sorti des chiffres, le nombre de classes qu'on avait dû ajouter dû aux demandeurs d'asile. Et c'est substantiel. Et c'est vrai que c'est un défi. Mais Jean-François Robert, j'aime bien sortir des données comme celle-là. Je veux pas leur mettre trop en question, mais tu sais, il nous manque tant de personnes dues à l'immigration.
Ben
puis, tu sais, la capacité d'intégration, ça existe. Il faut en parler, mais c'est pas quelque chose qui est fixe. C'est-à-dire que, par exemple, un gouvernement qui nous dit « ça n'a pas de bon sens, notre capacité d'intégration est atteinte », mais qui coupe dans la francisation. On a vu ça l'année passée. Donc, si tu augmentes les capacités de francisation... Bien, ta capacité d'intégration, elle change. Donc, on a quand même une emprise aussi sur ces éléments-là. Il faut être capable d'en débattre de façon sereine, ce qui n'arrive jamais en politique. Évidemment, quand on parle d'immigration, ça part dans tous les sens. C'est des enjeux qui sont légitimes, dont on doit discuter en faisant attention de ne pas déshumaniser les gens puis les stigmatiser puis leur mettre sur le dos n'importe quoi. Mais cela dit, la capacité d'intégration, c'est quelque chose sur quoi on a de l'emprise.
L'immigration devrait-elle être apolitique? J'ai de la misère à ce qu'on fasse de la politique sur l'immigration.
Moi, je veux pas être méchante, mais des fois, la solution à tout, là, comme une baguette magique, c'est de dépolitiser quelque chose. Hein. Mais en même temps, si, par exemple, l'électricité, on va faire un parallèle avec l'électricité. À un moment donné, on a décidé, on va sortir ça de la politique, ça va être la régie de l'énergie maintenant qui va fixer les augmentations, puis le gouvernement va approuver, pas approuver, peu importe. Le but, c'était ça. C'était d'arrêter qu'il y ait des partis qui proposent des affaires qui ne se peuvent pas, là, pendant les campagnes électorales, puis de baisser votre facture d'électricité avant que ce soit une bonne idée, des choses comme ça. Mais en même temps, il y a des défauts à ça. C'est-à-dire, c'est des gens derrière des portes closes qui ne sont pas élus, qui prennent des décisions qui ont des impacts sur les gens.
Oui, c'est vrai, qui ont des impacts sur la société, puis on élit des gens pour justement qui gèrent notre société.
C'est ça. Il n'y a rien de parfait dans la vie. La démocratie, c'est un système bien imparfait, mais qui est le moins pire des systèmes. Cela dit, je pense que régulièrement, il faut s'auto-réguler, c'est-à-dire quand on voit qu'un politicien va trop loin. Utilise pas. Tu sais, François Legault s'est amélioré, honnêtement. La force oui. de se faire dire, ça serait-tu possible d'arrêter de parler des immigrants comme si c'était comme.
Comme s'il était de la chenoute, là.
Oui, puis en termes comptables, tout le temps, c'était très froid. Il s'est amélioré. Je ne dis pas que c'est parfait, puis de toute façon, personne n'y trouve rien de bon ces temps-ci à François Legault, mais il commence toutes ses interventions sur l'immigration en disant, c'est pas contre les personnes. C'est pas... Tu sais, il fait un petit peu plus attention qu'avant.
T'as raison.
Donc, il faut continuer toujours de donner des petites piqûres de rappel à nos politiciens en disant, attention, là.
C'est des gens, ce sont des gens.
C'est des êtres humains, en effet. Carl qui écrit, et pendant qu'il parle de seuil, des Français d'ici déjà travailleurs temporaires travaillent à temps plein, ils se font refuser, ils doivent quitter. Résultat, une collègue et sa famille sont acceptés en Ontario.
C'est tellement fâchant d'entendre des personnes francophones qui travaillent, qui sont intégrées ici, mais qui vont aller en Ontario parce que notre système est tout croche. Et le système, il est tout croche. C'est-à-dire que on a des gouvernements, des partis politiques qui nous proposent des choses. Souvent, c'est paramétrique. On change à tous les 6 mois. Il n'y a pas de prévisibilité. Mm-hmm. On a l'impression qu'il n'y a pas de vue d'ensemble. Et on a l'impression que notre système d'immigration est un peu brisé parce que pendant que ces Français-là s'en vont en Ontario, on n'a aucun contrôle sur tout ce qui est demandeur d'asile. On a des programmes qui sont gérés par le fédéral qui ne répondent pas nécessairement toujours à nos besoins. C'est fâchant, mais il y a tellement de travail à faire en immigration.
En effet, t'as entièrement raison. C'est un dossier qui va continuer justement de faire jaser. Quelque chose qui fait jaser, c'est Pierre Poilievre. Il est à Québec à l'heure actuelle. Et voici ce qu'Éric Lefebvre, un de ses députés, a dit concernant le caucus au Québec qui est derrière Pierre Poilievre.
Ben oui, absolument. Encore ce matin, il y avait des rumeurs de 2 collègues du côté du Québec. Et je leur ai parlé 2 fois plus coûteux qu'aucune. Et il était là ce matin au caucus avec nous. Il était choqué de ces fausses rumeurs-là qui circulent au niveau des collègues québécois. Alors, le caucus du Québec est derrière Pierre Poilievre et uni plus que jamais. Le caucus national également. Alors, nous, on continue à travailler ensemble, en équipe. On sent l'écoute, puis on travaille pour les Canadiens et Canadiennes.
Petite question d'ouverture par rapport à ça, parce que Pierre Poilievre se trouve à Québec en ce moment, au lendemain d'un dépôt de budget, en fait, des libéraux, qui sont assurément leur adversaire politique. Hein. Il va y avoir des questions en chambre. Aujourd'hui, c'est une journée pour ça. Mais le chef se trouve à Québec avec plusieurs de ses députés. C'est rare qu'on voit ça. Est-ce que ça peut nuire dans leur position, puis le fait de questionner ce nouveau budget-là?
Ben en fait, c'est pas si rare hein, que les chefs manquent les périodes de questions. Monsieur Carney manque au moins une période de questions par semaine. Fait qu'il n'y a pas d'enjeu de ce côté-là. Par contre, je pense que ce que ça met en lumière, c'est à quel point on est vite passé à autre chose sur le budget. 78 milliards, un peu plus que 78 milliards de déficit, et on n'en parle plus du tout. Pourquoi? Parce que Mark Carney a réussi à mettre Pierre Poilievre sur la défensive avec ses histoires. Ben, le député Chris D'Entremont qui a traversé, mais là, les rumeurs qui continuent, c'est du bonbon pour les libéraux. Donc, ça a changé de sujet extrêmement rapidement. Pierre Poilievre est dans une position qui est difficile. Pas parce qu'il va nécessairement... S'il avait son vote de confiance demain matin, il le passerait son vote de confiance. Sauf que là, quand un député qui fait défection, ça ouvre le sentier pour les autres. On a vu à Québec qu'est-ce qui est en train de se passer, puis c'est pas terminé. Bien là, on a un petit peu le même phénomène à Ottawa pour d'autres raisons. Donc, il y a des rumeurs qui continuent de circuler. Ça met Pierre Poilievre sur la défensive. Il est obligé, en passant, il y a une chasse aux sorcières là, en ce moment au Parti conservateur.
Clairement, là, on cherche qui veut partir. Là, il y a un député, j'oublie son nom, dans la région d'Edmonton. On parlait de lui. Là, apparemment, que Poilievre l'a rencontré un à un. Il aurait dit, hey, écoute, mon homme, ça passera pas dans la population, tu vas te faire harceler. T'sais, donc là, on joue dur. Là.
Bien, on met des énergies là-dessus. Le député, c'était Matt Genereux.
Oui, c'est ça, en plein ça.
Et là, on met de l'énergie à essayer de ramener tout le monde, d'appeler les gens, s'assurer qu'ils s'en vont pas, etc. Pendant que tu mets de l'énergie là-dessus, là, mais tu la mets pas sur d'autres choses. Donc, c'est vraiment très, très dommageable pour Pierre Poilievre. Puis, là, je vais ajouter quelque chose, c'est que si Mark Carney réussit à aller chercher ses 3 députés, il y en a un, il en manque 2 pour avoir une majorité. S'il réussit, là, Pierre Poilievre a un vote de confiance en janvier. Là, les gens se disaient, bon, ben, c'est vrai que j'ai des doutes un peu sur est-ce qu'il a la bonne approche, est-ce qu'il est vraiment premier ministrable, Pierre Poilievre, puis avec ce qui s'est passé dans le podcast où il a dit que Justin Trudeau devrait être en prison, oui, si la GRC avait fait sa job, ça a vraiment augmenté ce doute-là. Il y a eu la sortie de Dimitri Soudas, ancien directeur des communications du parti, qui est venu alimenter tout ça. Donc, si les gens doutaient, bon, ils voient un premier député qui s'en va. Là, s'il y en a un deuxième, on va être à un député. Donc là, avant le vote de confiance, tu te dis, oui, mais moi, je veux-tu donner carte blanche à un chef si on est pour être dans un gouvernement majoritaire libéral? Là, quand tu sais que tu as des élections qui te pendonnaient à tout instant, tu n'as pas très envie de te partir dans des affaires de course à chefferie.
Ça m'amène justement à ma question. Est-ce que secrètement, il y a des conservateurs qui rêvent à une majorité libérale? Et là, je t'explique. On n'a pas gagné avec Pierre Poilievre alors qu'on était dans le siège du conducteur de façon phénoménale. On a perdu ces élections-là. Là, on dirait qu'on le garde là parce qu'on dit « Crème, il pourrait arriver n'importe quoi, ça nous prend un chef. Ouais. On ne peut pas être sans chef. » Mais en même temps, là, admettons qu'on repart en élection et que les conservateurs gagnent, là, ils ramassent une même bien la bullshit présentement budgétaire. Ils sont aussi bien de ramasser ça dans 4 ans que de le ramasser aujourd'hui.
Ça peut être une raison. L'autre raison, ça peut être parce que peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient mettre un autre chef et qui ont quelqu'un en tête. Là, pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'ils ont un Mark Carney dans le chapeau à sortir. Okay? Il y a eu des rumeurs sur Doug Ford, il y a toutes sortes de... Oui, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de conservateurs qui se disent, je pense que la meilleure affaire, là, ce serait encore de changer de chef. Là. On est passé, on a passé 3 chefs, on va avoir brûlé 3 chefs dans les dernières années. Puis tu sais, à la fin de la journée, ce que ça fait, c'est que ça maintient les libéraux au pouvoir. Il ne faut pas se compter d'histoire. Pendant que le Parti conservateur se déchire puis se demande c'est quoi ses positions, puis est-ce qu'on doit être plus populiste, moins populiste, plus gentil, moins gentil, bien, c'est les libéraux qui continuent de gagner les élections.
Exactement. Éric Lefebvre avait ceci à dire sur Chris d'Entremont.
Ben écoutez, je vous cacherai pas que c'était une surprise. On a eu sa lettre de démission hier. Monsieur d'Entremont était très déçu de ne pas avoir été nommé vice-président de la Chambre lorsqu'il y a eu un vote à l'intérieur même de notre parti comme membre du caucus conservateur. Alors je savais que sa déception était grande et Monsieur d'Entremont a fait ses choix et ce sera à lui de répondre aux questions.
C'est un frustré ou un lucide d'Entremont?
Ni l'un ni l'autre à mes yeux. Honnêtement, moi, j'y vois de l'opportunisme. Honnêtement, si t'es si frustré que ça... Pierre Poilievre était chef en avril dernier.
Ben oui.
Quand M. d'Entremont a décidé de mettre sa face sur une pancarte dans sa circonscription de la Nouvelle-Écosse...
Ben, c'est parce qu'il s'est imaginé une victoire des conservateurs, puis comme il était vice-président en Chambre, il s'est imaginé un poste haut placé dans le gouvernement.
Mais là, je sais pas ce qu'il a négocié avec les libéraux. Mais quand tu fais défection comme ça, là, quand un élu change de bannière, puis pas passer du NPD au Parti libéral, mettons, c'est pas la même affaire. Passer des conservateurs aux libéraux là, c'est une grande marche.
Oui, parce que là, il y en a plein qui disent « Hey, c'est un budget conservateur, le budget de Mark Carney, il est pas conservateur. »
Non, là, c'est pas conservateur. Des déficits de 78 milliards.
Non, c'est ça. Juste là en partant, là, c'est pas conservateur.
Donc, lui fait un sacrifice, parce qu'il y a toujours un coup politique à changer de parti. D'habitude, là, les députés qui se représentent sous une autre bannière à l'élection suivante, là, ben, ils se font battre. Okay?
Ben oui.
Là, c'est sûr, c'est dans les maritimes. Je veux pas, je peux pas te jurer qu'il sera pas réélu, mais il y a toujours un coup politique. Quand c'est pour des questions de valeur, les gens comprennent.
Un genre de karma qui vient démissionner au provincial qui pourrait aller dans un autre parti.
Ben, il est pas allé dans un... S'il était allé dans un autre parti, là, t'as passé les dernières années à dire que c'était des tabarouettes. Là.
Ah oui.
Honnêtement, je veux dire, tu marches sa peinture.
Ça fonctionnerait-tu? Non,
ça marcherait pas. Par contre, mettons qu'on veut trouver des exemples où les gens ont compris. Lucien Bouchard, qui était conservateur. Brian Mulroney en a voulu pour tout le reste sa vie.
Ils se sont réconciliés à la fin de la vie de Mulroney.
Oui, puis en tout cas, c'est pour connaître des amis de M. Mulroney. Je le mets entre guillemets, la réconciliation. Ouais. Lucien Bouchard, René Lévesque était libéral. Il a fondé le Parti québécois. Ça peut arriver, mais il faut que ce soit des raisons de valeur. Là, pour M. d'Entremont, moi, je ne le vois pas. Je trouve que c'est des tractations politiques. Il va avoir un coup pour lui. Il y avait un de ses amis qui est sorti dans les médias cette semaine, un ami qui ça faisait 25 ans là, qui se connaissait, qui a été directeur, en fait, président du Parti conservateur, puis qui disait, honnêtement, je me l'explique pas. Là.
Je comprends pas.
Il n'a jamais posé de questions avant l'élection. Il n'a jamais émis quelques insatisfactions.
Commentaire, puis là, tout à coup, paf, franchit la porte. Il y a une grande détérioration dans le réseau de la santé à l'heure actuelle avec le projet de loi 2. Et là, voilà que l'agence même qui a été créée par Christian Dubé, c'est-à-dire Santé Québec, se retourne contre son propre ministre. On a 27 médecins qui font partie des hauts dirigeants qui ont écrit une lettre à Geneviève Biron où on parle de détériorisation du climat de travail, anxiété et détresse psychologique chez plusieurs cliniciens, difficultés accrues de recrutement et de rétention, démission des leaders médicaux, démobilisation et conséquences directes sur l'offre de services et l'accès aux soins. Il mentionne trop de contrôle engendre souvent l'effet inverse de celui recherché, la démotivation, la rigidité et la perte de sens. L'applicabilité de cette loi nous inquiète grandement. Ça va pas bien pour Christian Dubé, là.
Oupsie! Parce que ça, l'Agence de santé, l'Agence Santé Québec, c'est supposé d'opérationnaliser le tout. Là.
Oui.
Puis là, eux autres, ils disent. Comment ça va bien aller?
Bien, c'est parce que là, eux autres, ils regardent ça et ils font je serais pas capable d'opérationnaliser cette loi-là.
Geneviève Biron, la PDG, se retrouve vraiment présente là, puis l'écorce.
Ah, vraiment?
Parce qu'elle est nommée par le ministre. On peut se compter des histoires. Elle ne peut pas s'aliéner, le ministre. Non, elle va disparaître. C'est ça qui va se passer.
Mais elle est arrivée dans la porte aussi en étant élue, bon, acclamée comme étant la grande Top Gun de la santé.
Et tu as tes 27 directeurs qui ne sont pas contents. Puis les 27 directeurs, c'est ceux qui parlent. Parce que on peut s'imaginer que dans le réseau, il y a plus de gens que ça.
Ben oui.
Ces directeurs-là qui demandent des assouplissements, des gestes d'apaisement, même la suspension du projet de loi. Donc, Geneviève Biron n'avait pas vraiment intérêt à sortir publiquement. Elle l'a fait hier et elle était très, très prudente. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, la pauvre?
Elle peut rien faire d'autre.
Donc là, ce qu'elle dit, c'est qu'on est en train d'analyser la portée de la loi.
Mm-hmm.
Et là, j'entends ça puis je me dis, là, vous êtes en train d'analyser la portée de la loi? Fait que ça veut dire qu'ils n'ont pas été consultés plus qu'il faut avant.
On va arriver à 2 semaines du dépôt de cette loi-là, puis je l'appelle maintenant la loi catastrophe, parce qu'écoute, ça pète de partout à l'heure actuelle.
Ben, en fait, ça rajoute à notre impression que ça a été botché. Parce que, je m'excuse, mais les gens qui vont opérationnaliser ta politique, ils auraient dû être partie prenante. Tu sais, je comprends qu'il y a des communications constantes entre Santé Québec et le cabinet du ministre. J'en suis persuadée. Je comprends aussi que c'est au ministre de lancer les orientations avec le ministère de la Santé, puis que Santé Québec s'occupe de tout ce qui est opérationnel. Mais ton armée, là, ton opérationnel, s'ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'on fait, puis d'où ça vient, puis s'ils n'y croient pas, c'est voué à quoi? À l'échec.
Ben oui, ben là, on a les députés de la CAQ à l'interne qui comprennent même pas c'est quoi cette loi-là. On leur explique qu'ils savent pas comment expliquer ça aux concitoyens. Là, on a Santé Québec qui est censé faire les opérations de ça. C'est le fameux planifier, organiser, diriger, contrôler, le PODC de la gestion de changement. Bien, dans l'organiser puis le diriger, là, c'est censé être Santé Québec. C'est censé être Santé Québec. Ils savent même pas c'est quoi cette loi-là. Là, j'entendais Gaétan Barrette dire tantôt à un ex-médecin, il disait « J'ai participé à 2 webinaires. »
Puis il comprend pas plus.
Je comprends même pas.
Est-ce qu'il doit démissionner, Christian Dubé? Parce qu'il y en a qui disent, bon, c'est plus le gars pour mener la patente, mais en même temps, n'importe qui qu'on met dans ce siège-là en ce moment, le siège est déjà en feu, là.
Bon, le siège est en feu, mais il faut dire que, dans le fond, les négociations avec la FMSQ et la FMOQ, d'habitude, puis on en jasait un petit peu hier, mais d'habitude, c'est le Conseil du Trésor qui mène le bal. Le ministre de la Santé, il participe, mais c'est pas lui qui fait les négociations comme tel. Et quand les choses deviennent vraiment très enflammées, le cabinet du premier ministre, évidemment, est impliqué. Donc, ça sert à rien de faire démissionner Christian Dubé. Cette demande-là, là, elle arrive de François Legault. Tu sais, moi, des fois, ça me fait rire quand les gens disent « on demande la démission de tel ministre ». Comme, vous comprenez que ça ne changera pas le gouvernement et le premier ministre.
Ça
ne changera pas grand-chose. Mais est-ce que le Conseil du Trésor pourrait reprendre, en quelque sorte, un peu plus un rôle de premier plan avec son image de bon cop?
On écoute France-Hélène Durand-Soit, cet effet-là, à l'émission Le Bilan hier sur les ondes d'LCN.
Madame la ministre, je veux bien comprendre, c'est vous qui menez les négociations, les pourparlers. Vous êtes la négociatrice en chef du gouvernement avec les médecins.
Bien, effectivement, le Conseil du Trésor est le négociateur en chef, là, pour le secrétariat du Conseil du Trésor, avec sa négociatrice en chef, a toujours été l'interlocuteur avec les fédérations médicales. Alors, là, on reprend le dossier.
Oui, c'est ça. Vous le reprenez parce que c'est votre collègue Dubé qui a amené...
une voie de passage.
OK. Vous reprenez le dossier parce que c'est votre collègue Dubé qui portait le ballon, là.
Quand on négocie, c'est le secrétariat du Conseil du Trésor. Quand il y a une loi qui est portée par le ministère de la Santé, alors c'est le ministre responsable de ce ministère-là, donc dans ce cas-là, le ministre Dubé, qui portait la loi, qui est la loi 2 actuellement. Là, on est dans une posture où il faut qu'on se rassoie ensemble, il faut qu'on trouve une voie de passage pour calmer le jeu.
Cruella n'est pas dans les bonnes chaussures-là. Là.
Moi, je ne l'appellerai jamais Cruella. On fait pas ça, OK?
OK.
Parce que, ça, sérieusement, j'ai trouvé ça épouvantable que le premier ministre donne cette étiquette-là. Et la pauvre, elle se retrouve avec ça.
Pognée avec ça, sans expérience. Tu sais, je veux dire, sans expérience au conseil du Trésor. Exact,
elle vient d'arriver.
Elle connaît pas nécessairement les dossiers. Christian Dubé et François Legault mettent le feu. Puis là, on s'entend, la loi 2, là, je commence à penser que ça a été rédigé par Christian Dubé et François Legault ensemble. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui le savait. Même pas à Santé Québec, même pas à CAQ. C'est les deux boys qui sont donnés comme mission. Les médecins, on va les mettre main. Oui. On va y casser. Là, ils sont à un an de plus être le gouvernement. Ils ont dit, on se fait plaisir, on les casse.
Exactement.
Mais pendant ce temps-là, ils criffent le système à terre. Un système qui était déjà à terre. Fait que là, pauvre France-Hélène Duranceau qui se retrouve avec ça, qu'est-ce que tu veux?
Mais c'est mission impossible là, pour France-Hélène Duranceau.
C'est impossible.
Et moi, j'ai des sources au gouvernement qui me disent que cet été, puis ça a été confirmé, je le mets entre guillemets, étant donné que c'est pas une partie désintéressée dans l'affaire, par Lucien Bouchard.
Oui.
Qu'on était très proche d'en arriver à une entente, en tout cas avec les médecins spécialistes. Oui. Je peux pas dire pour la FMOQ.
Il l'a dit à deux reprises.
Il l'a dit à deux reprises. Et j'ai des sources qui me l'indiquent aussi, des sources du gouvernement qui me disent on était très, très proche d'en arriver à une entente. Christian Dubé est arrivé dans le dossier, il a mis ses points sur la table, puis ça a été terminé. Puis à deux reprises, ça a fait dérailler un projet d'entente. Est-ce que le projet d'entente était à la satisfaction du ministre puis du premier ministre? Probablement pas. Mm-hmm. C'est ça qui a dû arriver. Il a dû dire non, là, la gang. On contourne encore le problème. Moi, je veux qu'on s'attaque à la rémunération. C'est possible. Mais dans les faits, le Conseil du Trésor était proche d'arriver à une entente. Est-ce qu'on l'aurait aimé, cette entente-là? Je le sais pas. Puis mais tu sais, les médecins spécialistes aussi, ça, c'est l'autre affaire. Les médecins de famille, il y a vraiment urgence, là, parce qu'on a 1 million de Québécois qui n'ont pas de médecins de famille et tout ça. Mais moi, la loi spéciale de tout de suite s'attaquer à la question des médecins spécialistes, là, honnêtement, je ne comprends pas trop.
Et je le répète, cet été, c'était Sonia Lebel à la tête du Conseil du Trésor. Elle avait l'expérience requise. Elle venait de mener de front des négociations syndicales très difficiles.
Ça faisait 5 ans qu'elle était au Conseil
du Trésor. Elle avait réalisé des ententes avec tous les partis syndicaux, tous les domaines d'emploi reliés justement au gouvernement. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Bien, Christian Dubé, il n'a pas fait confiance. Puis là, on se retrouve dans cette situation-là.
Il garde son bébé proche. Puis c'est un autre enjeu. Je reviens à Santé Québec, à l'Agence Santé Québec, que moi j'entends dans les couloirs, c'est que une des raisons pour lesquelles Santé Québec ne prend pas son envol, c'est qu'il y a de la micro-gestion en titi de la part du ministre.
Mais clairement, Santé Québec était censé être autonome, puis à chaque fois qu'ils font un geste, le ministre reparle par-dessus.
Bon, c'est ça.
Il n'y a aucune autonomie, c'est juste un autre ministère de la Santé qu'on a créé. Je laisse le mot de la fin à Steve, qui dit c'est Dubé qui s'occupe de l'opérationnel, Duranceau s'occupe juste des dollars et les enjeux sont opérationnels. En effet, donc on va toujours revenir vers Christian Dubé. Antonin Iaccarini, c'est toujours un plaisir. Je te souhaite un excellent long week-end. Ben, demain, tu es sur RDI. Quand on finit, on te regarde toujours RDI.
C'est un week-end
après.
De vous, mais je veux pas que les gens pensent que j'ai une semaine de 4 jours. Non, là, je travaille 5 jours comme tu travailles
très, très, très fort. On se reparle lundi. Sûrement qu'on aura des développements sur cette loi 2 parce qu'on n'en finit plus d'en parler. Après la pause, Pascal, Alicia Despins vient nous voir. On va parler avec elle justement de ce nouveau conseil de ville. 18 élus de Québec fort et fiers, 3 de respect citoyen. Est-ce qu'elle croit à la collaboration entre respect citoyen et Québec fort et fiers? C'est la question que je vais poser.
Et si oui, comment?
Ouais, c'est ça.
Et si oui, comment? Parce qu'hier, on a annoncé que Éric Ralph Mercier sera du côté de Stéphane Lachance pour la suite des choses.
Je veux l'entendre sur Éric Ralph Mercier. Je trouve pas que c'est un choix judicieux de respect citoyen.
J'ai hâte de voir comment ça va se jouer du côté de l'Hôtel de Ville. Honnêtement,
exactement.
Là, de grosses années à venir.
Oui, on parle de ça avec Alicia Despins immédiatement. Après cette courte pause, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. C'est l'émission Dans Jazz.
C'est le retour d'une journée que j'aime particulièrement parce qu'elle prend soin de ceux qui ont pris soin de nous, qui ont pris soin du pays. C'est la journée du 11 novembre. Puis en collaboration avec les fromageries Victoria, ben, il y a une superbe journée qui est organisée le 11 novembre. On va savourer une poutine, votre poutine préférée, dans vos fromageries Victoria. Et pour chaque Poutine, il y a un don automatiquement qui est fait pour penser à nos vétérans. Donc, on pose un geste puis on mange bien. Fromagerie Victoria, on est très fiers de soutenir la cause du jour du souvenir en remettant 2 $ par poutine vendue, 2 piastres, là, c'est beaucoup quand même, au Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. C'est valide dans toutes les succursales et ce, pour toute la journée du 11 novembre. Simple, pour soutenir la cause, tu t'en vas manger la meilleure poutine qui déborde de fromage en grains, qui est fait à 100 % de lait entier et qui provient directement des fermes d'ici. Une place d'ici, des entrepreneurs d'ici, pour une bonne cause, des gens d'ici, des vétérans. En plus, ben, je veux dire, sont alimentés par des producteurs d'ici. C'est capoté. Moi, cette journée-là me fait triper chez les fromageries Victoria. J'aime ça, des entrepreneurs qui voient grand, qui voient autour d'eux puis qui se disent « Ouais, nous, c'est 2 $ par poutine. » Il y a vraiment des choses pires que ça dans la vie que d'aller manger de la poutine pour une bonne cause. On vous attend en très, très, très grand nombre. C'est une invitation spéciale, une invitation de cœur pour déguster puis donner du sens à chaque bouchée. Le 11 novembre, notez ça, là on est le 6, le 11 novembre, on pense à nos vétérans et ça aura été très facile parce que ce sera avec Fromagerie Victoria. Allez manger une poutine mardi prochain, vous allez voir, c'est pour une bonne cause.
Après les lunchs, le soccer.
Émission d'en jazz sur les ondes de Boulevard 102.1, exactement midi 43, donc...
Tu l'as mis à l'envers.
J'allais mettre à l'envers.
Jeff s'est fait donner un cadeau par une ex-politicienne parce qu'elle a le droit maintenant de le faire.
Venez nous voir
donc,
sur Twitch.
Venez sur Twitch, puis il voulait vous la montrer, mais j'ai
Ouais, mais j'ai Mathieu Good Vibes maintenant. Oui. Ça, c'est cool.
Ça, c'est-tu un brand pour lequel tu as investi?
C'est un brand de Good Vibes Only. Ça a été... j'en parle ouvertement là, de ma dépression que j'ai eue en 2019. Puis après cette dépression-là, je cherchais un moyen de dire, OK, comment je pourrais... m'a replacé mentalement. Je suis un gars positif de nature. Et là, soudainement, je suis tombé là-dessus, sur Internet, par hasard. Good Vibes Only. Puis là, j'ai dit, ça va devenir mon patois. Alors là, toutes mes publications Facebook, je les signais Good Vibes Only. Puis c'est devenu, par la suite, j'ai coaché mon plus vieux Elliot dans le Bantama. Et je terminais toutes mes speeches.
Avec ce mantra-là.
Ouais, je terminais toujours avant les matchs en disant, hey, on n'oublie pas les gars, l'hockey c'est un jeu, parce que les jeunes de 14-15 ans, des fois, l'estime monte. Good Vibes Only. Et là, on s'est fait faire des chandails d'équipe Good Vibes Only. Ça a parti. On a gagné les séries. Tu sais, c'est une vibe qui a embarqué. Alors, et c'est là aussi que j'ai sûrement reçu le plus beau témoignage de ma vie, parce qu'au party de fin d'année, mon Elliot, 14 ans, est monté sur une table de pique-nique parce qu'on faisait ça dehors au Patron Charlebourg. Puis il a expliqué aux gens comment Good Vibes Only, c'était pas juste le coach de hockey, mais c'était le père.
Beau, ça!
J'en
ça
parle encore, mais j'ai les frissons.
Toi.
Je pourrais peut-être pleurer, mais pas de
Mais
suite.
Qui t'a donné ce cadeau-là?
La personne qui m'a donné ce cadeau-là, c'est Alicia Despins, notre nouvelle chroniqueuse municipale. Comment ça va, Alicia?
Ça va bien,
Good.
Toi?
Hey, ça va super bien. Merci pour le beau cadeau.
Ça fait plaisir. Écoute, vu ça, j'ai pensé à toi.
Ah, je suis tellement heureux. Colin. C'est sûr, je la porte avec fierté durant la période hivernale.
Ça vient du dépanneur de Louvicourt en Abitibi.
Donc là, je vais pouvoir...
Fait plusieurs kilomètres de route pour venir te retrouver.
Je vais pouvoir écœurer mon collègue Max Larouche et dire « Moi, j'ai une tique qui vient de la BTV. »
Ouais.
Ah, je la porte demain matin fièrement pendant le show Marceau le matin. Qu'est-ce que t'en penses, Pascal?
Oui, bonne idée.
T'es d'accord. Comment ça va? Comment tu te sens d'être à Québec, dans ta ville?
Ben, je me sens bien d'être dans ma ville. J'ai amené mon amoureux avec moi pour le voyage. Fait que là, lui, il appelle ça le farewell tour. Là. Je suis comme bookée tous les jours, mais c'est super. Nice. J'ai de la famille aussi. Puis je suis contente de venir vous jaser de l'élection.
T'as vécu la campagne électorale, toi, à l'extérieur de Québec. Tu l'as suivi à distance.
C'est ça. Moi, j'ai suivi des jeunes un petit peu partout à travers le Québec. Vraiment des quatre coins, là, entre l'Abitibi puis la Gaspésie. Puis évidemment, ben, j'ai accompagné mon chum dans sa campagne à la mairie de Val-d'Or. Défaite crève-cœur, 58 voix.
Aïe, aïe, aïe.
Vraiment, mais en même temps, c'est une défaite finalement qu'on a ressenti davantage comme une victoire là, d'être capable d'arriver aussi près. Puis de faire un impact aussi important là, dans la communauté. Mm-hmm. C'est vraiment incroyable.
Heureusement, il n'y aura pas besoin de gérer la Nulingus de Val-d'Or puis tout ce qui en découle. Fait que c'est parfait pour lui s'il peut se consoler avec ça.
Exactement. Alicia, tu en as parlé beaucoup de jeunes en politique. Un conseil municipal qui va être très jeune et très inexpérimenté à Québec. Comment tu vois la chose?
Moi, ça ne m'inquiète pas, honnêtement. C'est ça, je vous disais, hors d'onde, là, la seule différence, c'est un contexte qu'on a déjà connu mm-hmm. à Québec. Donc, cette élection-ci de 2025 ressemble étrangement à l'élection de 2017 de Régis Labeaume, élu avec une forte majorité, 18 conseiller sur 21, un maire d'expérience. Là, on peut dire ça de Bruno Marchand, c'est son deuxième mandat. La seule différence, c'est qu'en 2017, Régis Labeaume, la plupart de ses élus avaient de l'expérience. Là, la plupart des élus de Bruno Marchand n'ont pas d'expérience politique, c'est des nouveaux conseillers municipaux.
Avec un maire qui apprend encore son métier, veut pas,
oui,
là,
mais en même
politique.
Temps, 4 ans comme maire, là, à un moment donné, t'as quand même...
T'en as vu assez, t'en as
fait des budgets, l'administration autour de toi est solide. Ce qui va l'aider aussi, Bruno Marchand, c'est que là, il a reconduit beaucoup de son équipe politique, là, son staff politique. Clément Laberge, qui est reconduit comme chef de cabinet, je pense que personne n'en doutait. Les attachés politiques, le personnel de l'hôtel de ville, tout ça, ça fait en sorte que ça ne m'inquiète pas, cet apprentissage-là. Vraiment pas, là. Je pense que la machine, elle est rodée. Il va repartir là, avec un rythme. Puis ils n'ont pas le choix. C'est le budget hein, dans quelques semaines.
Petite question par rapport à ça. J'ai l'impression que certains se la posent, en fait, à se demander, est-ce que... Parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans le parti de Bruno Marchand pour cette élection-ci. Je veux dire, la jeunesse était partout.
Ah, vraiment?
On demandait à avoir des jeunes en politique qui s'intéressaient, qui voulaient changer les choses. D'un autre côté, des gens qui se questionnent sur... Il n'a pas pu recruter des têtes qui étaient déjà bien implantées en politique. Il n'a pas pu recruter des candidats avec une expérience certes ou... Comment tu expliques ça, toi? Ou tu analyses ça?
Moi, c'est ça. J'ai de la misère à m'expliquer ça. Puis je sais pas, elle est où l'équilibre là-dedans? On dirait que pendant tellement d'années en politique, on s'est dit, bon, la politique municipale, ça attire juste des retraités parce que les conditions, parce que ci, parce que ça. Les jeunes ne s'intéressent pas à la politique municipale. Puis là, on le voit, ce conseil municipal-là, c'est le plus jeune qu'on a jamais eu. On a 4 jeunes en bas de 30 ans.
Ben oui!
Puis là, je le dis, mais il faut qu'il y en ait au moins un qui soit nommé sur le comité exécutif là, avec des vraies responsabilités. Je pense que tu n'as pas le choix quand tu as cette représentation-là d'avoir une voix au sein du comité exécutif. Fait que j'ai de la misère à me l'expliquer, ce contexte-là, parce que ce n'est pas unique à Bruno Marchand. Dans tous les partis, ça a été difficile de recruter. Puis moi, à l'interne, avec Québec d'abord, avec Claude Villeneuve, à un moment donné, c'était un enjeu de se dire, bon, mais... Hey, on n'aura pas de tête grise, de tête blanche. Je pense qu'il y avait une candidate au-dessus de 60 ans, peut-être deux, là, mais c'est ça. Ça a été compliqué cette année dans le recrutement d'avoir cette diversité là, d'âge.
Mais moi, je suis content de voir ça parce que je me dis toujours qu'il faut bâtir la ville pour dans 15 ans.
Ouais.
Fait que je me dis, ben tant mieux, c'est des jeunes de 30 ans qui sont là, ils vont bâtir la ville pour dans 15 ans,
ben
puis ils vont améliorer les choses.
Je suis vraiment mal placé pour te dire
ouais,
que les jeunes en politique n'ont pas leur place. Là.
Ouais, c'est vrai. Comment ça, les jeunes sont en politique, Pascal? Ça va dans le genre, non, c'est pas vrai. Hey, t'as parlé de Claude Villeneuve, de Québec d'abord, comment tu te sens par rapport au fait que ton parti... à tout le moins, il n'existe plus à l'heure actuelle, ne sera plus au conseil de ville?
Bien, regarde, c'est la vie, je vais dire ça comme ça. Là. Je pense que globalement, on est serein dans tout ça. Moi, c'est sûr que la campagne, je ne l'ai pas vécue de l'interne. Là. J'étais en Abitibi pour l'essentiel du mois d'octobre. J'ai davantage vécu à Val-d'Or cette campagne-là. Fait que c'est des contacts, un soutien davantage... morale là, que j'ai auprès de mes amis de Québec d'abord. Je pense pas que c'est une grande surprise non plus pour personne. Peut-être sur les chiffres, peut-être sur la compétitivité. Je pense que certains élus, notamment certains conseillers municipaux... Ben, en fait,
ouais, ben exemple, Véronique Dallaire qui est finie quatrième.
Qui aurait peut-être pu s'attendre de chauffer un petit peu plus là, la personne arrivée deuxième. Au moins avoir le 15%. Ça, mm-hmm. ça fait mal à plusieurs personnes. Ouais. Ne pas avoir le 15%. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas de quoi je parle, pour te faire rembourser une partie des dépenses, une grande partie des dépenses électorales, il faut que tu aies minimum 15% à la fois les conseillers municipaux, mais à la mairie aussi. Là. Fait que Claude Villeneuve, il est le seul dans son district à avoir eu le 15%. Partout ailleurs, Québec d'abord, ça va être un défi parce que ça se peut qu'il soit obligé de continuer à essayer d'avoir du financement. Mais là, le parti n'existe plus. Ils n'ont plus d'élus. Les bénévoles, après ça, tu sais, la mobilisation,
ça va être dur, hein?
Là.
Ça va sortir des poches de qui, en fait, pour rembourser ces frais-là,
c'est
au pays, ces frais?
C'est la loi électorale continue de s'appliquer. Fait que c'est des dépenses, c'est des dons des citoyens. Je pense que ça se continue jusque pour toute l'année 2025, là, sauf erreur, pour 200 $ mm-hmm. maximum par électeur par année. Mais sinon, au lieu de 2026, c'est 100 $ c'est ça.
C'est le parti qu'il faut qu'il rembourse le
puis,
tout.
Puis, si on se tourne vers Leadership Québec, Sam Hamad, moi, c'est mon impression, mais je ne pense pas que Sam Hamad puis son équipe avaient prévu dans leur budget arriver en bas de 15
%
pour être capable de faire rembourser leurs dépenses électorales.
Certainement pas, parce que quand je parlais à des gens qui étaient quand même haut placés chez Leadership Québec, pour eux, c'était dans la poche, ce 15 %-là.
Ça monte jusqu'à quoi, 150 000, si je ne me trompe pas, dans ce coin-là, mettons,
le budget
maximal.
Autorisé, ouais, autorisé. C'est ça. Après ça, on ne sait pas là, combien, mm-hmm.
combien ont dépensé, combien. Mais quand même.
Exact. Ça peut monter assez haut. Puis là, essayer de rembourser ça à coût de 100 $ on l'a Après, vu avec la campagne de PKP, on l'a vu avec certains candidats à la chefferie du Parti libéral.
C'est des poches personnelles, après, qui remboursent?
Non, jamais, c'est ça. Après ça, tu peux avoir des amendes personnelles, mais ça ne rembourse pas ce que tu dois, ce que le parti doit. Parce que souvent, dans la structure, tu as besoin de liquidité pour commencer ta campagne. Après ça, ouais. tu vas aller chercher des dons à coût de 100 puis de 200 $ mais tu vas aller chercher un prêt dès le début pour avoir ces liquidités-là pour les pancartes électorales, le graphisme, les communications personnelles, etc. Fait qu'ils se sont endettés. Puis c'est ça, c'est de même ça fonctionne. Tout le monde commence comme ça. Tu n'as pas le choix de t'endetter dès le début pour faire ta campagne, puis réussir à aller chercher l'argent. Puis idéalement, bien, tu arrives avec ton 15 % il y a une grande portion, de mémoire, c'est 70 % là, qui est remboursé. Mm-hmm. Puis après ça, bien, les dons compensent le 30 % puis t'es correct. Quand t'as pas ton 15 % c'est pas mal plus compliqué. Ça se peut qu'il y ait des candidats qui traînent ça pendant des mois, voire des années,
ah, oui.
à aller chercher là, des 100 $ ici et là, là.
Aïe, 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 c'est très difficile pour eux. On va se retrouver à deux partis politiques au Conseil de ville. Québec Fort et Fier, tu l'as dit, 18 conseillers municipaux, Respect citoyen, 3 conseillers municipaux. Je te fais entendre ce que Stéphane Lachance a dit sur les ondes de Radio-Canada hier. Ben oui, il est allé à Radio-Canada finalement, Stéphane Lachance, Pascal, par rapport à comment il veut être dans l'opposition.
Et je le dis de toute façon, j'y vais d'une façon constructive. Donc, je ne veux pas être une opposition pour dire non à tout prix à n'importe quoi. Et d'ailleurs, on m'a même reproché durant certains débats d'avoir, sur certains enjeux, avoir été sensiblement en accord avec le maire Marchand. Mais je veux dire, quand...
Sur la sécurité.
La sécurité, entre autres, on était sensiblement sur ouais. le même point. Donc, tu sais, on n'est pas là pour dire non à tout prix. Quand ça va être bon, on va le dire aussi. Et puis, par contre, lorsqu'on va voir des choses qui, pour nous, ne correspondent pas, ben on va le dénoncer.
Alicia, tu y crois-tu à un Stéphane Lachance, à un Respect citoyen qui travaille de façon constructive après avoir vu tout ce qui se passe sur les médias sociaux concernant leur groupe Tramway, Non Merci, No Way, qui s'est transformé en Respect citoyen?
Je vais le croire quand je vais le voir. Je vais commencer ouais. comme ça.
Je suis en même place.
En même temps, il y a une partie de moi qui pourrait le croire dans le sens où une campagne électorale puis un mandat, c'est complètement différent. C'est vraiment pas la même chose. Fait que, alors qu'une campagne électorale, il fallait qu'il parle à ses électeurs, là, il faut qu'il parle à l'ensemble de la population. Il faut qu'il essaye de se faire mm-hmm. un nom. Il faut qu'il essaye de regagner en crédibilité parce qu'on va se le dire, il en a quand même perdu au fil des dernières semaines avec toutes les frasques là, qu'on a connues. Donc ça va être un grand défi pour lui. Après ça, juste avant la pause publicitaire, tu posais la question sur la collaboration. Ça, est-ce que j'y crois? Non. Malheureusement, j'y crois pas parce que la réalité, c'est que Bruno Marchand, il a pas besoin de cette collaboration-là.
Ben
il est fortement majoritaire à 18. Pourquoi avoir dans les pattes des 3 conseillers de l'opposition qui ont, ils ont tellement fait de bruit sur le tramway? Je sais pas à quel point là, cette collaboration-là va être possible, nécessaire, viable. Puis en plus, ben, l'opposition actuellement, Stéphane Lachance et ses 2 collègues, ils ont tellement de défis devant eux. Est-ce que les prochaines semaines, les prochains mois, leur priorité, ça va vraiment être les affaires de la ville, la collaboration, la constructivité? J'ai de la misère à croire ça. Je pense qu'ils ont tellement d'autres défis, puis je peux t'en nommer.
Oui, vas-y, c'est ça, j'allais te demander. Ben, quels sont les défis qu'ils ont devant eux?
Leur premier défi, ça va être d'exister. Parce que ça risque d'être compliqué pour
en
eux
effet.
Avec le temps qu'ils vont y avoir. L'espace auquel ils vont avoir droit dans l'espace public, au sein du conseil de ville, lors des séances, dans les différents conseils d'arrondissement, ça va être difficile pour eux juste d'exister tout simplement.
As-tu l'impression qu'ils vont devoir passer par des genres de rififi, des choses comme ça, crier plus fort comme ils ont fait en campagne électorale pour attirer l'attention?
Si c'est ça leur stratégie, je pense que ça va leur péter dans la face au final. Parce que là, Stéphane Lachance chance arrive avec cette attitude-là d'être constructif, etc. Mais si les bottines ne suivent pas les babines dans quelques semaines, il va reperdre la crédibilité qu'il essaie de regagner. Puis là, à un moment donné, les gens, il y a comme une limite, finalement, à faire croire des affaires puis à pas agir en conséquence. Là. Puis je pense qu'on a vécu aussi avec cette élection-là, c'est une cassure avec des débats, des vieux débats qu'on avait encore dans les airs, là, qui, selon moi, là, sont réglés. Le tramway, je pense que le message est assez fort.
Ah oui, là, c'est réglé.
Les pistes cyclables, la densification. Fait qu'un des défis de l'opposition, ça va être de se trouver des nouvelles missions, finalement. Mm-hmm. Des nouvelles missions de vie. Ils ne pourront plus marteler continuellement le tramway. C'est correct d'avoir un chien de garde. Ça, je pense que ça va être nécessaire. Ça va être sain. Mais ils ne pourront plus juste faire ça. Il va falloir qu'ils aient plus loin dans leur contenu. Après ça, il va falloir qu'ils se structurent, qui se professionnalise. Ouais. Ça aussi, c'est un autre défi.
On dit toujours que quand on commence, il faut être bien entouré. Là, on a nommé Éric Ralph-Mercier comme chef de cabinet. Bon, j'ai une opinion très tranchée sur Éric Ralph-Mercier. Je te la partage. Je pense pas que c'est l'homme de la situation. Là, s'il avait pas rajouté Ralph dans son nom, il serait sûrement pas où il est. C'est un homme que je vois pas vraiment de compétences en lui. Donc, je vois pas comment il va aider Respect citoyen à avancer. Là, moi, j'ai travaillé dans les organismes communautaires de Charlebourg pendant 5 ans. On n'a jamais vu. Non, mais on n'a jamais vu Éric Ralph-Mercier. Je sais même pas ce qu'il a fait dans son district.
C'est ça qui te dérange. C'est l'absence que tu as constatée.
L'absence. Puis, on se cachera pas là, le de compétences. Les 2 ans que j'ai couvert les conférences de presse, quand ils parlent, oh my God!
Puis je reviens avec
on dirait qu'on est dans les années 70. Là. Toc, nous sommes rendus en 2025.
C'est ça. Puis je parle de déficit de crédibilité. Je pense pas que c'est avec Éric Ralph-Mercier que tu vas réussir à remonter ta cote de crédibilité. Là.
Non.
Vraiment pas.
Pourquoi on va là, alors?
Je pense que faut se mettre dans la peau de ces gens-là. Le lendemain de l'élection, ça se passe tellement vite. À un moment donné, il faut que tu comptes tes postes très rapidement pour être effectif. Éric Ralph-Mercier, c'est quand même c'est le premier élu de Respect citoyen, au final, qui est rentré à l'Hôtel de Ville en changement de côté avant l'élection. Il y a tout le temps ces questions-là de loyauté, de récompenser les gens qui ont changé de bord, qui ont permis d'avoir cette voix-là, qui s'est représenté. Pendant un bout, on doutait, là, tout le monde doutait, on pensait tous qu'Éric Ralph-Mercier ne se représenterait pas. Il l'a fait, finalement, l'élection. Fait que je pense qu'il y a un bout de ça qui est de récompenser les efforts de la personne. Après ça, un chef de cabinet, là, ça peut faire 6 mois, puis on peut en avoir un autre dans 6 mois. Là. Mm-hmm. Ça, je pense pas que c'est exclu. Là.
Comment est-ce qu'on va réussir à recoller les pots cassés avec la campagne qu'on a fait pour Stéphane Lachance? Clairement, bon, on a réussi à se positionner en deuxième. Par contre, on a essuyé beaucoup de critiques. On a essuyé des grands articles sur sa vie personnelle. Ça n'a pas été une campagne facile. Les deux hommes, en fait, qui ont affronté Bruno Marchand en politique, clairement ont aidé Bruno à se faire élire. Là. Je veux dire, tout le monde est capable de le dire. Je ne sais pas s'il y a un post-mortem de leur côté. Sinon, nous, on va le dire ici en ondes, puis après, vous ferez votre propre critique. Mais ils ont aidé Bruno Marchand à être majoritaire puis à être à nouveau maire de Québec reconduit. Il se passe quelque chose là. C'est des hommes qui avaient un CV politique. Et là, on arrive, on n'a pas beaucoup de pouvoir. La campagne a coûté cher au niveau de toute l'image professionnelle et personnelle que l'on a. Est-ce qu'on a des regrets, d'après toi?
Je sais pas, je pense pas qu'avec... Je pense qu'on est trop tôt en ce moment pour avoir du regret. Là en ce moment, ils sont dans une phase où il faut qu'ils se remettent
sur pied
super rapidement.
Qu'ils apprennent, ça doit être tough.
Là, ils s'embarquent dans une panoplie de formations. Là, il va falloir qu'ils commencent à étudier le budget, qu'ils commencent à prendre des décisions.
Pour le pas de recul, il va falloir attendre encore?
Je pense qu'il va falloir attendre. De toute façon, quand tu sors d'une élection... On dirait qu'il n'y a pas de place à ça, le regret. On dirait qu'il n'y a pas d'espace. Tu ne peux pas continuer de torturer avec ça, puis de qu'est-ce que j'aurais pu faire, est-ce que si, puis ça, puis bon, ça, c'était une erreur. Il va sûrement avoir un post-mortem avec l'équipe, mais tu ne peux pas passer trop de temps dans cette phase-là de regret.
Mais ça va les suivre.
Ça va les suivre, ça va être un de leurs grands défis. Puis quand je parle de se structurer puis de se professionnaliser, mais là, eux autres, ils ont tout avantage à aller chercher du monde qui connaît ça pour vrai, qui vont être capables de les ramener un peu vers de quoi qui est plus sérieux, qui est plus crédible, qui est plus...
Parce qu'ils ne le sont pas?
Non, puis je pense que ça a transparu beaucoup pendant la campagne. Je pense que c'est une de leurs grandes erreurs. S'ils ont des regrets à avoir, moi, en tout cas, à leur place, mon premier regret, ça aurait été de ne pas m'être entourée de professionnels, de gens qui connaissent ça, notamment en matière de communication. Les erreurs en communication qu'il y a eu là, pas inviter des journalistes, se peinturer dans le coin par rapport à toute l'histoire avec sa maman, toutes ces affaires-là, avec des gens calés en communication, je pense pas que ça se soit rendu.
Est-ce qu'un parti qui se structure avec la haine et le dégoût attire des gens professionnels?
Ben non.
C'est ça, hein?
Ben non,
fait c'est ça. Ils sont dans un cercle vicieux.
Il va falloir qu'ils se ressentent vers quelque chose. Puis en même temps, cette émotion-là que tu parles de haine, de colère, est-ce que c'est viable à terme? Ça non plus, je pense pas. En termes de mobilisation...
Ça attirera jamais l'électeur moyen.
Mm-hmm. Ça fait son temps, puis ça s'estompe.
Face à ce genre de compétition-là qu'il y avait lors de la campagne électorale, Tasson, Bruno Marchand, de la conversation, je veux pas que tu joues à la belle-mère, mais quand même, Québec d'abord, c'est terminé. Claude Villeneuve, ça a pas fonctionné. Pas du tout. Disons les bons termes. Si tu avais encore été au sein du parti, qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Sur quoi tu n'étais pas d'accord?
Je pense que Claude, il était dans une position où il aurait pu prendre plus de risques. Puis c'est plate parce que c'est pas son genre, tu sais, ça y ressemble pas. Claude, il peut pas promettre rien sachant qu'il sera pas capable de le réaliser. Fait que rentrer dans le populisme juste pour faire parler de lui, Claude, il était pas prêt à faire ça. Mais il y avait beaucoup de monde, dont moi, qui le poussait vers ça. Tu sais, d'avoir des projets de société plus qui marquent davantage l'imaginaire. Parce que son grand défi à Claude Villeneuve, c'est qu'il est ultra compétent. Mais dans cette campagne-là qu'on a eue, c'était une campagne de bruit. Puis ça a fait en sorte que Bruno Marchand s'est imposé comme la valeur refuge, dans le fond. Là. Les gens se sont tournés vers Bruno Marchand. Puis Claude, autant Claude Villeneuve que Jackie Smith, avec leurs idées, avec ce qu'ils proposaient, n'ont pas réussi à se démarquer à travers ces choix-là. C'est resté une course à deux, essentiellement. Ouais. Là.
Il ne nous a pas fait rêver.
Non, il y a ça aussi. Puis c'est pas par faute d'avoir essayé, mais je pense qu'il était juste à côté.
Trop pragmatique?
Peut-être. Puis tu sais, il a essayé de faire rêver avec le 500e, c'est ça? Le 500e d'arrivée de Jacques Cartier. Je pense pas que les électeurs de la ville de Québec étaient là-dessus. Là. Je pense pas que c'est ça qui fait rêver le monde de Québec actuellement. Après ça, la solution magique, qu'est-ce qu'il aurait pu promettre ou faire différemment? Je pense pas qu'il y en avait une. Là.
Je propose la motivation. Peut-être que ça aurait changé certaines choses parce que Claude Villeneuve, très tôt, s'est positionné comme étant dans l'ambiguïté d'être le chef de son parti, quasi de se représenter aux prochaines élections. Bien avant la campagne, quand on veut un leader, quand on veut un chef d'équipe, c'est rare qu'on se tourne vers la personne qui hésite à prendre cette position-là. Il avait de bonnes raisons, la famille, le ci, le ça. Mais c'est pas à ce moment-là que c'est tiré dans le pied également pour son positionnement politique.
Puis à sa défense, je pense qu'il s'est fait autant tirer dans le pied qu'il s'est fait retenir par bien du monde, puis notamment à l'interne, tu sais, les gens, les élus de Québec d'abord, qui, on le voyait bien, là, qu'à un moment donné, c'était pas le charisme incarné.
Non, ça collait pas.
Les gens de Québec aiment ça, un maire qui a du charisme, un candidat à la mairie qui est très charismatique, qui rayonne. Bruno Marchand incarne ça, Régis Labombe incarne ça. La mairesse Boucher incarnait ça aussi à sa façon. Fait qu'on est habitué à avoir ces personnalités là, fortes et colorées. Claude Villeneuve répond moins à ça. Fait qu'autant il s'est fait freiner par sa gang, autant je pense qu'il s'est tiré dans le pied aussi de cette façon-là. La réalité, c'est que historiquement, à Québec, on n'élit pas des chefs d'opposition comme maire de la ville de Québec. Déjà, juste dans le rôle dans lequel il était, d'être chef d'opposition, c'était déjà une prise contre lui.
Ouais, tu pars pas, puis tu réussis pas à franchir la marche. Je termine cette excellente discussion, puis ça va être le fun qu'on se parle aux deux semaines, Alicia Despins. Yes. Jackie Smith, hier, qui a fait une montée contre les médias, qui a dit sur Radio-Canada, c'est de votre faute si Bruno Marchand était élu parce qu'il sort avec Monique Néron, puis vous en avez fait votre candidat vedette. Moi, je suis tanné que les politiciens parlent contre les médias. Je me dis, sois bon, puis la population va voter pour toi. Je me trompe-tu? Je suis d'accord à 100%.
Ça sert à rien. Les médias, ils existent. Il y a pas, tu peux pas te battre contre ça. Tu peux pas te battre contre cet écosystème-là. Si tu n'es pas capable de naviguer dans l'écosystème médiatique, tu pourras pas réussir en politique. Là.
Non, c'est ça.
Ça va de pair, ça va ensemble. Puis c'est dommage parce que c'est ça, souvent, les politiciens, bon, à chaque fois qu'il y a quelque chose contre eux, ben là, ils s'imaginent que c'est de la faute des médias.
Ah oui, tu sais, j'entends ça de l'équipe.
Dans un miroir.
Ben, c'est ça, j'entends ça de l'équipe de Sam Hamad à côté. C'est de la faute de Radio-Canada. Oui, mais Sam, t'as fait une conférence de presse dans un jeu d'eau qui est parti. T'as créé la chanson Leadership Québec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'sais? Même principe, tu sais, j'entends ça de Stéphane Lachance. Hein, ils ont parlé de mes étiquettes. Non, mais t'es as-tu payé ou t'es as pas payé tes étiquettes? Donc...
C'est très mal connaître. On dirait, c'est ça, c'est très mal connaître la politique à Québec. Mm-hmm.
Ouais.
Savoir qu'il y a des médias, il y a des journalistes, plusieurs journalistes attirés à la politique municipale par média à Québec, ce qu'on voit pas n'importe où ailleurs.
En effet.
Fait que vous autres, tu sais, votre job, c'est d'avoir du contenu, de sortir des articles, des
connaître les candidats.
Fait que c'est sûr qu'il faut s'attendre à ce que les journalistes aillent mm-hmm. creuser davantage. Puis ils sautent sur chacune des occasions pour avoir de nouvelles. C'est ça l'écosystème.
Je pense que, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je pense que pour ce candidat-là, Stéphane Lachance, quand c'est rendu qu'on avait des articles sur sa vie personnelle, sa gestion personnelle, sa rigueur, etc., le point n'était pas ce qui était comme fait. Le point était comment tu l'expliques, comment tu te défends de ça. Ce qui est surprenant pour nous, c'est qu'il n'y en avait pas de réponse de prête.
Mm-hmm. Oui. Ouais. Bien, puis après ça, tu réponds quoi à ça? Tu essaies d'être le candidat de la rigueur financière puis tu ne payes pas tes étiquettes depuis des années.
Est-ce qu'il aurait dû s'abstenir de se présenter à ce moment-là s'il savait qu'il allait se faire? Parce qu'une fois que c'est fait, c'est pas payé, ça reste, c'est présent.
Ça reste. C'est un peu naïf aussi de penser que ça fera pas débat. Bon, la résidence à Lévis, c'est une autre affaire. Des candidats qui est allé chercher. Fait que c'est toutes des erreurs un peu de débutants qu'on peut attribuer à la naïveté de penser que ce sera pas grave dans l'élection. En même temps, je veux juste dire
ben, voici.
Moi, jamais j'aurais pensé qu'il pèterait des scores à 23,4.
Non, en effet, en même temps, il faut lui donner ça.
Il y a de quoi qui s'est passé qui, mine de rien, il a quand même fait une méchante bonne campagne. Là,
t'as
tout ça, là.
Entièrement raison. Alicia Despins, merci beaucoup. On se reparle après le prochain conseil de ville.
Absolument.
Yes, merci d'être venu ici en studio à Québec. Je te souhaite un excellent week-end à Québec avec ton amoureux.
Ouais.
Fais-y découvrir notre belle ville.
Oui, je vais faire ça, absolument.
Notre capitale nationale qui rayonne. Cool. Et merci pour le cadeau.
Plaisir.
Hey, good vibe. Check ça, Pascal. J'ai gardé toute l'entrevue.
Ouais, d'abord, tu vas apporter pas mal, si tu veux.
Et voilà. Après cette courte pause à Boulevard, on fait le tour de l'actualité. On va également parler du 900e but d'Alex Ovechkin. Pascal, je suis en train de t'intéresser au hockey. Je le sais, je suis convaincu de ça.
Tranquillement, vraiment pas vite.
Ouais, c'est ça. Et après l'actualité, ce sera Ruben Gazal qui va venir s'installer avec nous pour parler de son livre qui a pour titre « Les gens du pays viennent aussi d'ailleurs ». On va humaniser l'immigration, Pascal, c'est vrai. On va se donner ça comme mission sociale. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102 à l'émission L'en jase.
Jusqu'à 4. Soyez le leader dans la chaumière. Et pourquoi? Ben pour économiser un, pour avoir préparé l'auto aussi avant l'hiver. Demain, petit flocon. C'est encore au planning, je pense, hein, Jeff? Oui, il me fait signe que oui. Donc,
ah
mise
oui,
au point.
Écoute, veux-tu te faire une petite météo, Pascal, quand même?
Ouais, vas-y, mon
père. Moins 1 degré, faible neige intermittente pour demain. Aïe, aïe, aïe!
Alors, dès aujourd'hui, ou encore demain, ou encore en fin de semaine, ben c'est la pose de pneus qui est nécessaire. Hein? Si vous n'avez pas vos pneus demain, moi, je vous dis, soyez donc relax à la maison. Mais ça, c'est vraiment moi qui se prend pour une petite mère, justement. Mais chose certaine, l'entretien du véhicule en fin de semaine, c'est parfait. Mise au point avec le leader au Québec pour les pièces d'auto et accessoires. Je vous envoie chez Martin. Martin, c'est notre homme. Pourquoi? Ben parce que c'est lui, pièces d'auto économique, et il a décidé de vous en créer de la succursale ici dans la province. On est rendu à 5 centres de distribution, un site transactionnel qui est lepièceséconomique.com et 9 magasins partout au Québec. On n'y est pas, c'est des grandes marques, c'est des pièces neuves, garanties et les meilleurs prix. Puis en novembre, on a décidé d'en ajouter. Ça veut dire que parmi les 20 marques de pneus, d'essuie-glaces, de batteries, d'alternateurs et encore, vous allez avoir des économies. 10% de rabais sur les disques de frein de première qualité, c'est les Brake Max, on les a choisis, on a choisi quelque chose de très fort et à forte teneur en carbone pour un freinage en douceur. 20 % de rabais aussi sur quoi? Les essuie-glaces. Vous me changez ça pour l'hiver. On n'y aise pas. Puis surtout, vous prenez les Rain-X. Parfait pour affronter la neige. Je vous le dis, conseil de Pascal, je n'ai jamais reculé depuis que c'est ce que je prends pour mon véhicule. 10 % de rabais sur les plaquettes de frein aussi Bosch et 10 % sur les batteries de marque Maison, pièces d'auto économique. Je ne fais pas de la pub pour faire de la pub. Je vous en parle parce que je suis consommatrice de chez Pièces d'auto économique depuis plus de 5 ans maintenant. Pourquoi? Bien parce que c'est les meilleurs prix. J'aime ça taponner sur des affaires, économiser en même temps et certainement savoir que mon véhicule est servi par le leader au Québec. Pièces d'auto économique, on répond également à vos questions. Si vous êtes un patenteux des premiers jours ou un nouveau patenteux, c'est à vous. Puis en passant, les patenteux, je vous salue. On aime ça, ça aussi. Pièces d'auto économique, le site transactionnel ou la succursale. Bon entretien, mes amis.
Le salon de la...
C'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Bon, 418-971-1021. Comment vous avez trouvé notre nouvelle chroniqueuse municipale, Alicia Despentes? J'aimais ça, moi, c'est le fun. Pascal jasait avec des gens qui ont une vision positive de la ville, mais surtout qui l'ont vécu pendant 8 ans dans le conseil de ville. Un bel ajout à l'émission d'En jase.
Absolument. Puis, tu sais, moi, je trouve ça intéressant parce qu'elle a connu plusieurs airs, dont celle de Régis Labeaume aussi.
Exactement. Ouais. Et elle a été autant dans le parti au pouvoir que dans l'opposition. Mm-hmm. Et j'ai bien aimé le positionnement qu'elle a eu sur Claude Villeneuve quand elle a dit...
C'était honnête.
Oui, il fait pas assez rêver. Il est pas assez vendeur.
Oui.
Trop pragmatique. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est ça. Tu sais, tu l'as couvert pendant longtemps, le conseil municipal. Moi, je l'ai couvert pendant 2 ans. Puis c'était ça aussi dans l'opposition, Claude Villeneuve. J'avais jamais l'impression que quand j'étais assis avec, je me disais toujours, quel bon yaob. Mais je me disais, Kim, je ressors de son point de presse, puis j'ai pas l'impression d'avoir appris quelque chose.
C'est un top fun dans le sens où c'est pas lui qui va faire le party. Mais dans le party, tu veux jaser avec. Pourquoi?
Oui.
Parce que c'est relax, parce que tu as des bons sujets de conversation. T'aimes-tu l'image?
Ben oui.
C'est pas lui qui va être sur la table en train de faire le party. Mais dans le party, tu veux jaser avec. Tu veux prendre une pause.
Il servira pas les shooters, mais tu vas vouloir prendre une petite coupe de vin puis jaser avec lui.
Exact. Puis c'est vrai que c'est une bonne personne au quotidien, puis c'est vrai qu'il est engagé auprès de ses citoyens. Moi, il y a une chose que c'est une analyse personnelle pour Claude Villeneuve. C'est un gars qui a été longtemps dans les médias, dans la nouvelle. C'est pas un créatif politique. Puis là, je te parle pas de Justin Trudeau.
C'est
là.
Un bon point.
Je te parle de quelqu'un qui va être capable de faire du tricotage entre quelque chose qui est un petit peu moins sexy, qui est pas borésé en politique, mais qui va être important pour la ville.
Il y avait comme adversaire quelqu'un comme ça, Bruno Marchand, c'est ça.
Il est un petit peu plus spectaculaire. Il est un peu plus... Tu sais, on est là-dedans. C'est le genre de politicien que beaucoup souhaitent pour les vidanges, le déneigement.
Ouais.
Mais ça fait justement pas borésé. C'est pas celui qui va te faire saliver.
T'as raison.
Et malheureusement, quand il y a un manque d'équilibre en politique à ce niveau-là, c'est sûr que ça va pas chercher tous les cœurs de ce monde.
Ah, j'aime ton analyse, Pascal CV. Qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Bien, c'est sûr qu'on va parler de la politique en immigration du côté du provincial.
Oui.
Alors, la CAQ qui arrive avec une nouvelle annonce importante. Québec qui adopte une cible de 45 000 immigrants permanents par année, soit de 2026 à 2029. C'est le gel du programme des travailleurs étrangers temporaires à Montréal et à Laval qui sera de nouveau prolongé aussi. Donc, on a fait son lit, on a opté pour la plus généreuse des 3 options qui avaient été présentées en ce qui a trait à la planification de l'immigration au Québec pour cette période-là, 2026-2029. Ça a été déposé ce matin à l'Assemblée nationale par le ministre Jean-François Roberge. C'est sa cible. 45 000 immigrants permanents pour les 4 prochaines années. En comparaison, Québec prévoit accueillir de manière permanente jusqu'à 61 000 nouveaux arrivants en 2025. Donc, c'est moins que l'année précédente, et ce, pour les 4 prochaines années. Donc, on jonglait avec 3 scénarios, là. C'était tous des scénarios de baisse. On est quand même allé avec le plus grand, 45 000. Sinon, on aurait pu avoir 25 000 ou 35 000 max immigrants permanents. Si vous voulez reprendre la chronique d'Antonine Iacarini, elle en a jasé avec nous un peu plus tôt à l'émission, donc dans le caucus Iacarini. Ce sera sur le site de blvd.fm.
En plein ça!
La Sûreté du Québec recherche des informations pour un viol. Jean-François qui est survenu il y a 19 ans à Donnacona.
2006, hein? Festival de blues de Donnacona, c'est bien ça?
Première nouvelle sur laquelle j'ai cliqué aujourd'hui. Elle a attiré mon attention. Beaucoup de choses là-dedans que je trouve spectaculaires, tiens, disons-le comme ça. Premièrement, on a mis un poste de commandement à Donnacona pour ça, pour agression sexuelle qui était survenue en 2006, le 26 août, effectivement, durant la première édition du festival Donnacona au rythme du blues. Pourquoi on revient plusieurs années là-dessus avec une demande d'information? Bien, on veut vraiment recueillir de l'info, on veut rencontrer des témoins qui peuvent faire avancer l'enquête d'agression sexuelle qui avait fait une victime qui est toujours en cours. Pour ceux qui disent des fois que ça gèle, hein, certaines affaires, bien là, c'est un peu fascinant de voir qu'on est installé sur l'avenue Saint-Jacques à Donnacona. C'est sur les lieux de l'ancien bar chez Jacques où se serait déroulée une partie des faits il y a 19 ans. On rappelle que vers 21h45, la victime, c'était une dame qui avait dans la cinquantaine à ce moment-là, se trouvait au bar chez Jacques, puis elle avait commandé une bière. Bière qu'elle avait laissée sans surveillance. Puis c'est là, c'est par la suite que la victime avait été amenée à quitter le bar puis avait subi une agression sexuelle selon ce qu'expliquent les policiers sans ajouter de détails. Et ça s'arrête là. L'agression à l'époque n'avait pas été médiatisée. Là, on envoie ça dans les médias et on n'a pas plus de détails. Donc, les détails seront à venir. C'est super nébuleux.
On doit être en train de tenter de reconstituer toute la scène, dans le fond, puis il nous manque des éléments.
Bien des questions, mais est-ce que c'est encore une histoire dont on a pris de l'ADN, là, tu sais, avec les fameuses goupilles?
Ben oui,
on a été
capable
de recouper des ADN qui revient avec certaines infos qu'on avait dans le temps et qui a recommencé à huiler la machine de l'enquête.
Là, on souhaite que quelqu'un parle. Ah, c'est vrai, c'est un bon point.
Quelque chose à suivre.
Yes.
Les groupes WhatsApp, texto, tout ce qui est réseaux sociaux, ça arrive dans le débat sur la loi 2 parce que ça a semé la panique au sein des médecins spécialistes qui ont peur de délation, qui ont peur d'avoir justement des espions à leur trousse. Donc, il y a des affidavits qui ont été déposés dans le cadre de la contestation de la loi qui révèlent les craintes de représailles si jamais il y a utilisation de messagerie, etc. Puis là, on se dit, hey, là, on va peut-être supprimer des messageries, on va peut-être encrypter, on va peut-être supprimer des textos. On a peur de parler à son conjoint même, donc dans la chaumière. Il y a des témoignages de médecins dans le cadre de la contestation de la loi 2 qui montrent qu'il y a vraiment un sentiment de panique qui a gagné la profession, que tout le monde en parle. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai pris des mesures tout à fait exceptionnelles que j'aurais jamais imaginé devoir prendre, puis je croyais réservées au pays totalitaire, entre autres. Dans les discours, c'est ce qu'on entend. On dit, j'ai entrepris de supprimer les messages que j'ai échangés avec ma propre conjointe, de peur de faire l'objet de représailles. C'est des témoignages qu'on entend en ce moment pour ce qui a trait à tout ce qui entoure la Fédération des médecins spécialistes contre le projet de loi 2 qui a été adopté sous Bayon par le gouvernement. On craint même d'être pénalisé financièrement en raison de cette loi-là. Donc, on est en train de revoir toutes nos stratégies de communication particulières, mais c'est dans l'actualité en ce moment.
Oui, vraiment très particulier. C'est la preuve que cette loi-là vient complètement déstabiliser les médecins, qu'elle était beaucoup trop matraque et qu'elle tente beaucoup trop de les contrôler. Puis là, ils se retrouvent dans une situation où, mais mon Dieu, pourquoi t'es... La grosse question que les médecins se posent, puis c'est Emily Britton qui nous l'avait dit, hein, si je ne me trompe
Dr.
pas.
Docteur Emily Britton,
Docteur
oui.
Emily Britton qui nous avait dit, les médecins se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là?
Exact, oui. Puis tu sais, on peut commencer à dire, ben là, ça va trop loin et tout ça, mais c'est, ça reste des émotions, des sentiments vécus pour de vrai chez les médecins. Donc, à partir de ce moment-là, si on se met dans leur culotte, si on se met à leur place, puis on se dit, OK, moi, là, demain, là, on m'annonce, mettons, en radio, que j'ai plus le droit d'être critique envers mon média ou critique envers mon employeur, sinon je vais avoir une amende, puis tout ça. Parce que, les communications, on veut les régimes, on veut que ça se passe d'une manière qu'on soit privé au public maintenant. Hey, ça se peut que je devienne sensible à me dire, bon, veux-tu me risquer une amende, même si je pense que ça passera pas en droits et libertés, en fait, le fait de m'obliger à rien dire.
Ton exemple est très bon. Ton exemple est très, 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 très bon. Une petite dernière pour la route avant que je te parle d'Alex Ovechkin.
Et elle est super importante. Ça va faire un pont dans les sports parce que là, c'est une nouvelle, triste nouvelle.
Oui, un footballeur. Hein?
Exactement. Marshawn Newland, pardonnez-moi. Des Cowboys de Dallas qui se seraient suicidés à l'âge de 24 ans. C'est le demi-défensif des Cowboys, en fait, et c'est un ex-joueur étoile de l'Université Western Michigan qui disputait sa deuxième saison dans la NFL, seulement 24 ans, qui a été retrouvé mort. Puis là, vraisemblablement, on se rend compte que c'est par une blessure par balle. Puis je vous rappelle que c'est une histoire rocambolesque, là. Il aurait tenté d'échapper aux policiers à bord de son véhicule après avoir quitté la scène d'un accident à pied. On enquêtait déjà sur tout ça Ensuite, ça s'est transféré vers un possible suicide en lien avec son décès. On dit que Newland ne s'était pas arrêté à la demande des policiers du Texas Department of Public Safety, puis ont d'ailleurs pris en chasse l'homme en compagnie du service de police de Frisco. C'était mercredi soir, donc les autorités ont perdu la trace du véhicule puis ont retrouvé quelques minutes plus tard le dit véhicule. Pendant la fouille, après la disparition de Newland, on a appris que le joueur des Cowboys avait démontré des tendances suicidaires puis a été retrouvé mort tôt ce matin. On a précisé qu'il est décédé pendant la nuit. On n'a pas beaucoup de détails au sujet du décès. C'est son agent Jonathan Pursley qui a demandé qu'on respecte sa vie privée. Mais on voyait les messages là, partout sur les réseaux sociaux, comme quoi immense tristesse, confirmation du décès, etc. Puis c'est quand même un joueur qui était connu là, dans les Cowboys de Dallas. Il avait récupéré un botté de dégagement bloqué pour un touché dans la défaite de 27-17 des Cowboys contre les Cardinals de l'Arizona lundi soir.
Ce match était lundi, c'est ça?
C'était cette semaine, puis il avait fait rayonner, équipe à ce moment-là. On vous rappelle en passant, si vous avez besoin d'aide, oui. 1-866-APPEL, ce serait par suicide.
Ah, vraiment, nos sympathies à la famille et à la famille des Cowboys de Dallas. Hier, Pascal, Alex Ovechkin a atteint une marque que personne n'a jamais atteint dans l'histoire de la Ligue nationale. Lost it there to Ovechkin. Quick relay comes to the point. Chikrin fires, just miss. Ovechkin turns, he scores! The Great Eight is the one and only at 900! 900e but en carrière pour Alex Ovechkin. Il avait battu le record de Wayne Gretzky l'an passé en fin de saison. Je sais que t'aimes ça, ces histoires-là, Pascal. Ouais. Sais-tu ce que le gardien de but des Blues de Saint-Louis a fait avec la rondelle?
Dis-moi tout, parce que absolument pas.
Il l'a pris, puis il l'a mis dans ses pantalons. Il a essayé de la cacher pour pas qu'Ovechkin ait sa rondelle du 900e but. Et c'est l'arbitre qui a vu le stratagème. Et après qu'on ait fêté Ovechkin, parce que tous les joueurs des Capitals sont arrivés sur la patinoire, il est allé voir Jordan Binnington, le gardien de but de Saint-Louis, puis il dit... Donne-moi la rondelle. Et là, Binnington est obligé de sortir ça de ses pantalons.
Mais là, c'était pas pour niaiser. Là.
Non,
le gars a vraiment fait ça. Mon Dieu.
Binnington n'a pas donné de commentaire encore. J'imagine qu'il va être obligé d'en donner.
Ben, moi, je pense qu'il n'y a rien à dire. Là. Tout était vu.
Jordan Binnington, qui était le gardien là, partant et gagnant la Coupe des Quatre Nations pour le Canada, est reconnu pour son caractère bouillant. Alors, est-ce que c'est parce qu'il était vraiment frustré d'avoir accordé le 900e but puis il a dit cette rondelle-là, il n'ira jamais au temple de la renommée, je la mets dans mes pantalons. Mais Jordan, je t'annonce qu'il y a des caméras partout dans l'aréna.
Je comprends pas à quel point. C'est pour ça que je me dis ça doit être une joke. Je peux pas croire.
Moi aussi, je pensais que c'était une joke.
Pas de raison. À se dire, ben là, on va la chercher, cette rondelle-là. Deuxièmement, c'est vu par les spectateurs, vu par les caméras, les arbitres. Il n'en manque pas une. Ouais. Si moi, un petit gars de 11 ans était capable de repérer sa glace qu'ils vont à toute vitesse, là, les joueurs du Canadien, entre autres, le numéro puis le nom du gars, là, sur place, on est capable de voir tout ce qui se passe. C'est vraiment niaiseux.
Exactement.
J'appelle ça une nouvelle bébé lala.
Oui, c'est vraiment un comportement de bébé lala.
Voulais-tu la vendre?
On ne sait pas. L'avenir nous le dira, Pascal Sévin. Ça se retrouve sur nos médias sociaux. Max Larouche nous a mis ça sur Facebook et Instagram. On fait une courte pause et par la suite, on va humaniser l'immigration en parlant avec la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Gazal, et de son livre « Les gens du pays viennent aussi d'ailleurs ». Vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1 à l'émission d'Enjase.